Est-ce qu'on verra un jour des femmes prêtres dans l'Église catholique? La question n'est pas exactement celle-là. La vraie question, c'est que fera l'Église quand l'État, c'est-à-dire quand le législateur, lui imposera la parité? Quand le législateur obligera l'Église à ouvrir sa hiérarchie qui est aujourd'hui exclusivement masculine, de l'ouvrir aux femmes pour faire cesser cette discrimination. Cette perspective n'est pas absurde. Elle est dans la continuité de ce que nous vivons aujourd'hui. Elle se rapproche sans doute dans un monde dont on peut se demander quelles sont ses convictions et qui est perméable à toutes les revendications. Eh bien, l'Église fera ce qu'elle a toujours fait face aux contraintes extérieures abusives. Elle entrera dans la clandestinité. Et ce sera le plus grand service qu'on pourra lui rendre pour les vocations sacerdotales et religieuses. Il n'y a rien de pire aujourd'hui pour les vocations, pour l'engagement, que le monde dans lequel nous vivons, dans ce ventre mou. Le bon pasteur, dit Jésus, est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Moi, dit Jésus, je suis le bon pasteur, je donne ma vie pour mes brebis. Voilà pourquoi le Père m'aime, dit Jésus, parce que je donne ma vie. L'expression est employée 3 fois. Et nous comprenons bien qu'il ne s'agit pas de donner sa vie pour une cause, pour une idéologie, pour des idées, mais pour des êtres vivants, des personnes, c'est toute la symbolique des brebis, des personnes vulnérables, les plus petits de mes frères, dit Jésus. Ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Au moment de sa passion, lorsqu'il a été arrêté, Jésus a dit aux gardes qui venaient l'arrêter, cela en montrant ses disciples, cela laissez-les partir. Si c'est moi que vous venez arrêter, laissez-les partir. Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il faut ajouter une deuxième précision qui est aussi importante que la première. La première, c'est qu'il ne s'agit pas de donner sa vie pour une cause, mais pour des personnes. Et il s'agit de donner sa vie pour donner la vie en plénitude. C'est ainsi que s'harmonisent deux principes complémentaires comparables au féminin et au masculin, au yin et au yang. Donner la vie et donner sa vie. En Jésus-Christ qui donne sa vie, réside la plénitude de l'Esprit-Saint qui donne la vie, qui est Seigneur et qui donne la vie. Aux personnes qui me demandent pourquoi les prêtres catholiques sont exclusivement des hommes, je réponds que c'est le principe masculin de donner sa vie, par différence avec le principe féminin, de donner la vie. Ça n'empêche pas les femmes de donner leur vie, compris héroïquement, comme Sainte Jeanne d'Arc, comme les vierges et les martyrs. Ça n'empêche pas les hommes de donner la vie, comme je le fais à chaque baptême, comme je le fais chaque fois que je donne la communion. De toute façon, aucun des deux ne fait rien sans l'autre. Ni Jésus sans l'Esprit-Saint, ni l'Esprit-Saint sans Jésus. La confusion contemporaine vient d'une image excessivement et même erronément masculine du Père, de Dieu le Père. Il faut relire de temps en temps le catéchisme. En désignant Dieu du nom de Père, le langage de la foi indique que Dieu est origine première de tout, c'est la source de tout. C'est l'autorité transcendante. Et en même temps, il est bonté et tendresse pour ses enfants. Voilà la logique du bon pasteur. Il est pasteur et il est bonté.
Et le catéchisme poursuit, cette tendresse de Dieu peut aussi être exprimée par l'image de la maternité, qui indique davantage l'intimité entre Dieu et sa créature. Mais Dieu transcende la distinction des sexes, il n'est ni homme ni femme, il est Dieu. De la même façon, il transcende la paternité et la maternité humaine, tout en étant l'origine et la mesure. Personne n'est père comme Dieu. Voilà pourquoi le titre « pasteur », le symbole d'autorité, ne peut pas être séparé de l'adjectif « bon », de la tendresse. Et ces traits ne sont pas discriminants. Je connais autant de femmes d'autorité que d'hommes de bonté. Combien de fois, dit Jésus en pleurant sur Jérusalem, j'ai voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Voilà ce que Dieu dit de lui-même, comme la poule qui rassemble ses poussins sous ses ailes. Je dis souvent aux hommes à qui la femme reproche, les maris à qui la femme reproche de ne pas parler, de ne pas s'exprimer, de ne pas communiquer. Vous savez que c'est quand même assez fréquent dans un couple d'entendre sinon ces reproches, ces regrets. Et je leur dis, c'est pas en cachant vos fragilités, c'est pas en taisant vos émotions, c'est pas en roulant des mécaniques ou en jouant l'homme fort que vous allez rassurer votre femme. De tels couples reposent sur une illusion, sur un marché de dupes, lorsque l'homme joue le fort et la femme la faiblesse. Ça, c'est vrai au cinéma, c'est pas vrai dans la vie. Dans l'Évangile, Jésus pleure et Marie reste au pied de la croix. C'est ça la réalité. Je voudrais vous livrer deux réflexions qui correspondent aux trois missions de l'évêque, du bon pasteur, du pasteur local de l'Église, les missions de gouvernement, d'enseignement, de sanctification. Le pasteur, il a d'abord pour mission de conduire et de garder. Elles sont inséparables, les deux vont ensemble. Conduire et garder les brebis qui lui sont confiées. De veiller sur elles, de n'en perdre aucune. La volonté du Père qui m'a envoyé, dit Jésus, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour, que je leur donne la vie éternelle. Et n'avoir perdu aucun de ceux que le Père lui a donnés, c'est, à la veille au soir de sa passion, le grand motif d'action de grâce de Jésus. Nous l'entendrons au 7e dimanche de Pâques, à la fin du temps pascal, dans la grande prière sacerdotale au chapitre 17 de Saint Jean. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu. Sauf celui qui s'en va à sa perte. Ce que le Père a donné, lui a donné, nous sommes pour Jésus des dons du Père. Nous sommes pour Jésus des dons du Père. Le Père nous donne à lui et il nous donne son Fils. Voyez le merveilleux échange. Le Père nous donne à Jésus. Le Père nous donne son Fils. Et cela joue pour nous également. Aimez-vous les uns les autres signifie accueillez-vous mutuellement comme des dons du Père, comme donnés par Dieu les uns aux autres. La meilleure façon de protéger quelqu'un, c'est de restaurer son lien avec Dieu notre Père. Il faut le dire et le répéter sans cesse aux parents. Si vous voulez protéger vos enfants, apprenez-leur à prier notre Père. Concentrez-vous sur ce qui est le plus essentiel, le plus important, ce qui nous rattache à Dieu. Et c'est ma deuxième réflexion. Ne vous trompez pas sur la consolation que vous pouvez leur apporter dans la détresse, dans la difficulté. C'est vrai pour les parents avec les enfants, c'est vrai entre nous. Il y a une tentation humaine qui ne cherche pas tant à consoler qu'à passer à autre chose. Vous savez, quand on dit « arrête de pleurer », on peut dire « arrête de pleurer un enfant parce que c'est un caprice ». Non, on peut dire aussi « arrête de pleurer, ne pleure plus. Parce que c'est insupportable de voir souffrir quelqu'un qu'on aime. Mais également parce que de toute façon, toute souffrance dérange. Un cri s'élève dans Rama. Pleure et longue plainte. C'est Rachel qui pleure ses enfants et elle ne veut pas être consolée. Elle ne veut pas. Au matin de Pâques, auprès du tombeau vide, les anges, puis Jésus ressuscité lui-même, ne disent pas à Marie-Madeleine, ne pleure pas, ne pleure plus. Ils lui disent, pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Ouvre ton cœur, partage ce qui t'est douloureux. Une femme racontait cette étape cruciale de son existence. Elle venait de perdre la personne qu'elle aimait le plus au monde. Et elle disait, rien, rien ni personne ne pouvait me consoler. Mais j'ai trouvé dans l'Église un soutien. C'est la raison d'être des croix, de nos crucifix, de ces croix si visiblement, ostensiblement présentes. Nous ne voulons pas cacher la souffrance. Nous ne voulons pas cacher, faire taire la douleur. Nous ne disons à personne, ne pleure pas, ne pleure plus. Nous pleurons avec ceux qui pleurent. C'est le propre de la compassion, de pleurer avec ceux qui pleurent, parce que c'est la condition de la consolation. Il ne peut pas y avoir de consolation s'il n'y a pas d'abord compassion. À la mort de Jésus au samedi saint, le lendemain de sa mort, où était la Vierge Marie? Elle était chez le disciple que Jésus aimait. Il l'avait reçu à la croix pour qu'il la prenne chez lui, pour qu'il la protège. Et à partir de ce moment-là, il l'a pris chez lui. C'est le modèle de l'Église qui accueille et qui protège. Le modèle de la Vierge Marie, notre mère, qui donne tendresse et consolation.